Bonjour et bienvenue en Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Dans Espérance aujourd'hui, nous vous parlons de la Bible. Nous désirons vous redonner courage dans votre marche quotidienne et faire grandir en vous l'espoir que Jésus donne.
Aujourd'hui, Yann s'est rendu chez notre invité Charles pour reprendre leur discussion sur l'image du berger à travers la Bible.
Jusqu'alors, nous avons vu que cette image s'appliquait surtout à Dieu. Nous disons souvent « l'Éternel est mon berger ». Et nous avons commencé à découvrir ensemble la richesse de cette image et jusqu'à quel point le Seigneur s'occupe du croyant et s'intéresse à son bien-être. Aujourd'hui toutefois, je voudrais introduire une autre signification biblique de l'image du berger avec son troupeau.
Et quelle est-elle ?
Eh bien, à l'époque biblique, les rois, les gouverneurs et les prêtres étaient souvent considérés comme les bergers du peuple. C'est-à-dire que l'on comparait les responsabilités d'un chef, que ce soit au niveau national ou local, politique ou religieux, aux responsabilités d'un berger envers son troupeau.
Donc à travers cette image du berger, la Bible nous montre la façon dont un chef doit gouverner.
C'est exact.
Et pouvez-vous décrire cette pensée biblique? Comment un dirigeant doit-il s'acquitter de ses fonctions?
Tout comme un berger doit avant tout s'occuper du bien-être de ses brebis, un dirigeant doit s'occuper des besoins et des intérêts des personnes qui se trouvent sous sa responsabilité. Tout comme un berger doit trouver de l'eau et des pâturages pour nourrir son troupeau, les dirigeants d'un pays doivent chercher à mener une politique qui permet à sa population de faire face aux nécessités de la vie. Tout comme un berger doit protéger son troupeau de tout danger ou menace, les dirigeants d'un pays doivent tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité du peuple.
Vous avez brossé ainsi un tableau du rang de l'État. Mais cette image du berger peut-elle s'appliquer également aux chefs spirituels, tels que les prêtres, les pasteurs et les anciens?
Oui, tout à fait. La leçon est la même. Un chef spirituel doit avoir à cœur les intérêts spirituels des personnes qui leur sont confiées.
Et est-ce que la Bible nous dit si les dirigeants d'Israël ont rempli leurs fonctions ou non? Ont-ils été de bons bergers envers le peuple?
Nous ne pouvons pas généraliser. Cependant, il est clair qu'à certaines époques de l'histoire d'Israël, le comportement des dirigeants a suscité de vives critiques de la part des prophètes.
Et pouvez-vous citer des exemples?
Bien sûr, le plus notable est celui du prophète nommé Ézéchiel, dans le chapitre 34 du livre qui porte son nom. Voici un exemple de ce qu'il a dit. « Voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel, malheur aux bergers d'Israël qui ne s'occupent que d'eux-mêmes. N'est-ce pas le troupeau que les bergers doivent faire paître? Vous vous êtes nourris de sa graisse et habillés de sa laine. Vous avez abattu les bêtes grasses, mais vous ne faites pas paître le troupeau. Vous n'avez pas aidé les brebis faibles à retrouver des forces. Vous n'avez pas soigné celles qui étaient malades. Vous n'avez pas pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient écartées. Vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues. Non, vous avez imposé votre autorité par la violence et la tyrannie. »
Il est clair que le prophète dénonce les actions des mauvais bergers et du peuple. Mais en quoi exactement les dirigeants d'Israël étaient-ils coupables?
De toute évidence, les chefs plaçaient leur propre intérêt avant ceux du peuple. Ils s'occupaient d'eux-mêmes au lieu de s'occuper des autres. Cela a sans doute conduit à des abus de pouvoir, des injustices et de l'exploitation. Les riches s'enrichissaient au détriment des pauvres et ne leur accordaient aucune possibilité de recours. Le peuple était exposé au danger de la pauvreté, aux pénuries et à l'insécurité. Au lieu de s'occuper des faibles et des nécessiteux qui se trouvaient en Israël, les dirigeants en ont profité pour consolider leur propre position et accroître leurs gains. C'est une telle politique que Dieu fustige à travers les prophètes.
Une fois de plus, vous avez d'abord évoqué le côté matériel ou politique des choses. Mais qu'en est-il sur le plan religieux ou spirituel?
Nous savons que les chefs à l'époque d'Ézéchiel s'étaient éloignés de Dieu, et les prêtres aussi. Au lieu d'adorer le seul Dieu vivant et vrai, celui qui avait délivré Israël de l'esclavage en Égypte, un culte idolâtre ainsi que des pratiques occultes et superstitieux étaient encouragés. Les dirigeants devenus infidèles n'enseignaient plus la vérité, négligeant ainsi le peuple qui sombrait dans l'ignorance et l'immoralité. Seuls les prophètes cherchaient à redresser les choses. Seuls les prophètes avertissaient les chefs et le peuple du jugement imminent qui pesait sur eux tous.
Et ces prophètes qui remettaient en question les dirigeants du jour, ont-ils réussi à changer la société?
Pour la plupart, pas vraiment. Cependant, le prophète Ézéchiel introduit une note d'espoir pour l'avenir alors que le jugement était tombé sur Israël. Ses cités étaient pillées et détruites et sa population emmenée en exil.
Et quelle est-elle au juste, cette note d'espoir?
Lisons ensemble un peu plus loin dans le chapitre que j'ai cité tout à l'heure, Ézéchiel 34. Voici ce que déclare le Seigneur. « Je vais moi-même venir m'occuper de mon troupeau et en prendre soin. » Comme un berger va à la recherche de son troupeau, le jour où il se trouve dispersé, ainsi j'irai à la recherche de mes brebis, et je les arracherai de tous les lieux où elles ont été dispersées. Et plus loin encore, Ézéchiel ajoute, j'établirai à leur tête un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David. Il prendra soin d'elles et sera leur berger.
Si j'ai bien compris, nous retrouvons l'idée que c'est Dieu lui-même qui est notre berger par excellence. Celui qui sait parfaitement prendre soin de ses brebis.
Oui, tout à fait. Le peuple d'Israël avait toutes les raisons d'être déçu de ses autorités et de ses dirigeants, aussi bien sur le plan politique que spirituel. Mais par-dessus tout, Dieu déclare que lui est digne de confiance. Aujourd'hui, les hommes peuvent encore nous décevoir, le monde n'ayant pas changé. Il existe encore des injustices et des inégalités, créées et entretenues par des hommes durs et égoïstes. Cependant, Dieu se présente comme le bon berger, dont les qualités exercées en faveur des brebis sont la compassion, la bienveillance et la fidélité, entre autres. Si vous êtes déçu par ce monde si malheureux, vous ne le serez pas par le bon berger. Avant de terminer notre discussion, je voudrais souligner une autre promesse qui se dégage de la prophétie d'Ézéchiel.
Et quelle est-elle ?
Dieu, qui se présente lui-même comme un bon berger, affirme qu'il enverra dans ce monde un chef qui sera le berger par excellence, qui régnera sur le troupeau comme il le faut, qui prendra soin du troupeau à la perfection.
Et de qui s'agit-il? Connaissez-vous son identité?
Je connais effectivement son identité, et je pense qu'il est facile de la deviner. Cependant, je vais attendre notre prochaine discussion avant de dévoiler qui il est et pour en parler davantage.
Voilà donc une bonne raison de plus pour écouter notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui.
Nous avons tous des responsabilités, que ce soit au sein de la famille, avec des personnes à notre charge, ou que ce soit sur notre lieu de travail. Certains occupent des postes au sein du gouvernement, au niveau local ou national, et doivent assumer de lourds devoirs. Quoi qu'il en soit, nous devons tous réfléchir aux propos de Charles afin de mieux agir selon la volonté de Dieu.
À présent, notre invité Jean-Luc va nous parler davantage de la rencontre entre Siméon et l'enfant Jésus. Écoutons d'abord le récit biblique lu dans l'évangile de Luc au chapitre 2, versets 28 à 32.
Poussé par l'esprit, Siméon vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, lumière pour éclairer les nations. »
Dans l'obscurité de la nuit, nous avons du mal à nous déplacer dans nos maisons, et nous avons du mal à trouver notre chemin, surtout lorsqu'il s'agit de lieux inconnus. Toutes ces difficultés disparaissent avec l'arrivée du soleil, qui éclaire tout par sa puissante lumière. Nous avons besoin de lumière afin d'accomplir la moindre tâche. Sans lumière, la vie perdrait de son éclat et deviendrait pénible. Quand Siméon prend l'enfant Jésus dans ses bras, l'Esprit de Dieu lui permet de comprendre que cet enfant accomplira les promesses des prophètes. Il sera le sauveur, mais il sera aussi une lumière pour les nations. Que voulait-il dire là? D'abord que Jésus est celui qui fait connaître Dieu. Comment apprécier la beauté délicate des fleurs et des papillons sans la lumière? Comment suivre un chemin à travers les forêts et les montagnes s'il n'est pas éclairé? De la même manière, sans la lumière apportée par Jésus, nous ne pouvons apprécier, saisir et comprendre la beauté de la gloire et de la grâce de Dieu. Et sans la lumière apportée par Jésus, nous ne pouvons pas trouver le chemin qui mène à Dieu. Nous comprenons alors que la lumière est une image représentant la vérité spirituelle. Livrés à nous-mêmes, nous ne trouverions jamais la vérité sur Dieu. Nous tâtonnerions dans l'obscurité. Toutefois, l'arrivée de Jésus et de la vérité qu'il apporte est comme le soleil qui pointe le matin et dont la lumière ne tarde pas à chasser les ténèbres. La vie de Jésus, ses miracles, sa façon de se conduire, sa manière d'aborder les hommes et les femmes, tout cela nous révèle Dieu. L'enseignement de Jésus est si riche qu'il nous permet de comprendre de nombreuses vérités sur Dieu. Les événements accompagnant la mort de Jésus ainsi que sa résurrection dévoilent aussi le caractère de Dieu et nous permettent de comprendre comment être réconciliés avec lui et comment être libérés des puissances qui nous oppriment. Beaucoup en Israël attendaient un sauveur militaire qui écraserait les nations par la force des armes. Siméon avait compris que Dieu agirait sur un autre plan et que le sauveur envoyé serait une lumière non seulement pour Israël, mais aussi pour toutes les nations. Ainsi, nous pouvons tous profiter de cette lumière. Nous pouvons tous sortir de l'obscurité pour jouir de cette lumière qui nous accorde, par la grâce, une vraie connaissance de Dieu. Si aujourd'hui, vous êtes en quête de sens pour votre vie, de vérité ou de paix et d'espérance, Siméon vous montre vers qui vous devez regarder.
Jésus est son nom, la vraie lumière qui nous vient du ciel. Jésus est son nom, la vraie lumière qui nous vient du ciel.
Vous venez d'écouter un extrait de « Jésus, c'est son nom » chanté par Diapason. Et sur ce, nous vous quittons.
Mais n'oubliez pas que la prochaine fois, Jean nous révélera l'identité du bon berger que Dieu a promis d'envoyer dans ce monde.
Nous espérons donc vous retrouver lors de notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui. En attendant, nous vous disons au revoir et que Dieu vous bénisse.